Ok, je vous invite à aller dans l'évangile selon Matthieu. Et nous allons au chapitre 6, regarder un verset qui est très 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 connu. Des fois, la familiarité nous empêche de voir toute la richesse qu'il y a dedans. Donc c'est le verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, comme je dis, un passage très très connu. Nous sommes ici dans le ministère de Jésus. Jésus a commencé son ministère et il est dans cette il lance cette exhortation. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus, pendant toute son ministère d'enseignement sur terre, a décrit quel est ce royaume des cieux. Et on pense déjà à Jean-Baptiste qui paraît et qui son message est résumé par repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Puis Jésus, pareil, il est lui-même baptisé, il commence son ministère. Dans le chapitre 4, par exemple, nous voyons, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et en fait, le reste de son enseignement est, de façon schématique, bien sûr, une description, un enseignement pour décrire qu'est-ce que ce royaume des cieux, ce royaume de Dieu. Et ici, il a ce passage que nous citons, nous chantons même très très couramment. La première chose que j'aimerais relever de cela, c'est que Jésus ici, dans tout ce passage, en fait, dans ce sermon sur la montagne, on pourrait dire, Jésus parle d'une façon personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'en fait, il s'adresse à des individus. Et c'est important pour nous de faire ressortir la chose parce que il est très facile, quand on est dans l'Église, ou quand on veut se joindre à l'Église, de glisser dans un salut collectif. Alors, il y a une dimension collective à la vie du salut. Mais le salut, le royaume de Dieu, est personnel. C'est très très important. Et est-ce l'expérience ou est-ce le fait de se promener un peu à droite à gauche? Je vois souvent comment on peut glisser dans la mentalité collective, c'est-à-dire qu'on commence à suivre quelqu'un d'autre. Ça peut être un prédicateur célèbre ou avec une personnalité forte. Ça peut être un groupe de gens. Ça peut être un système de doctrine et ainsi de suite. Mais ces choses-là, si nous sommes dans cette dynamique-là, ces choses-là nous empêchent, nous séparent du salut, de la réalité du salut. Parce que le salut est quelque chose de personnel. Et ici, Jésus parle à des gens, à chacun d'entre eux. Quelquefois, quand je prêche à un auditoire où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien au niveau de la Bible et probablement qui ne connaissent pas le Seigneur, bon, je m'amuse, mais disons, je dis, en fait, je ne prêche pas à la personne assise à côté de vous, mais à vous. Ah, bien entendu, vous voyez, c'est très très important parce que bien que la vie du salut soit communautaire, et c'est très très important aussi de saisir cela, mais nous n'en sommes pas là pour le moment, dans le fait que le salut ne se vit pas seul. Surtout aujourd'hui, on peut avoir de la prédication sur l'internet et tout ça. En fait, on peut ne pas être impliqué dans une vie d'église, vous voyez. Mais non, là, ici, nous ne parlons pas de ça, c'est avant. Le salut est quelque chose de personnel. Et pour nous, c'est très, très important de ne pas recevoir le salut de façon sacerdotale, c'est-à-dire à travers un moyen, un genre de sacrificateur. Ça peut être le groupe. Alors, c'est. Vous savez tout de suite comme quoi c'est important. Combien de gens nous voyons qui sont un peu des, parlons gentiment, mais quand même, des épaves sociales. Notre monde est un monde terrible qui laisse des tas de gens sur le carreau et les gens viennent à l'église, surtout dans notre pays où la grande majorité des gens sont influencés par le concept catholique, qui est un concept social en fait. Ils viennent dans l'église pour se sentir bien, pour être aidés, pour... Non, ça n'est pas cela. On vient au salut, on vient auprès comment, du roi du salut, on pourra dire, individuellement. Et c'est important. Est-ce que, nous pouvons nous poser la question nous-mêmes, est-ce que nous l'avons fait et ou est-ce que nous avons quitté ce côté personnel pour simplement se réfugier dans un genre de nébuleuse communautaire du salut? Le fait qu'on est dans une église, franchement, ça va. Ça veut dire qu'on est tranquille maintenant, on est bien, hein, il n'y a pas de problème, on doit être sauvé puisqu'on est dans l'église. Non. Non. La vie du salut se vit communautairement et individuellement, mais le salut est quelque chose de personnel. Et c'est très important, à la fois pour nous et à la fois pour parler aux autres. Donc ici, Jésus parle de façon personnelle. Que dit-il? Cherchez. Alors on va prendre les mots tels qu'ils sont. Cherchez. Le salut ne vient pas tout seul. Alors, je sais que Dieu est l'auteur du salut, que Dieu amène le salut, mais aussi, nous savons que l'œuvre de l'Esprit de Dieu commence déjà dans le cœur et commence souvent par une conviction de péché qui peut simplement être de réaliser qu'en fait, il nous manque ce salut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence de différentes manières. Et si on entend tous les témoignages, on s'aperçoit que chacun est différent pratiquement. Mais quand même, il y a une œuvre qui se passe, qui montre la beauté de Christ, par exemple. Ça, c'est la première œuvre du Saint-Esprit, et qui fait comprendre le néant que nous avons, le vide. Et ce vide, bien entendu, pousse à chercher. Est-ce que nous cherchons le royaume et la justice de Dieu? Où est-ce que nous attendons que ça vienne? Où est-ce que nous pensons que c'est quelque chose qui coule de source, tout simplement? Alors, peut-être que cela ne nous touche pas directement, mais cela touche certainement des gens à qui nous parlons. Le fait que très très souvent les gens pensent, oh, mes parents étaient chrétiens, donc il n'y a pas de problème, hein? Ça glisse comme ça passe, un peu comme l'héritage. Quoique l'héritage maintenant, ça passe pas si facilement, mais le salut ne passe pas du tout comme ça. Ou alors on va penser que parce qu'on fait certaines choses, parce qu'on ne fait pas d'autres choses, et tout. Non, le salut, c'est quelque chose que nous n'avons pas au début. Encore là, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit, parce qu'on peut simplement penser, et encore, je pense à des gens que je connais bien, qui se disent, mais bon, bien sûr que je suis sauvé, moi, quand même, je suis pas n'importe qui, hein. Bon, pas parfait, non, bien sûr, hein, personne ne l'est, mais quand même, c'est quelque chose qui est acquis pour moi. En fait, non, pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui n'est pas là au départ. Nous ne naissons pas sauvés. Cela ne vient pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais cela vient de Dieu. Et c'est quelque chose d'important pour nous à réaliser et à montrer à aux gens autour de nous, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui cherche à se persuader qu'on vit dans un monde fermé, dans un univers fermé. C'est-à-dire que toutes les choses, soit elles se renouvellent, soit elles se tirent de ce qui est là. En fait, c'est un peu le déisme. Non, l'évangile, c'est quelque chose qui vient du dehors, parce que nous sommes dans un univers qui est ouvert, où Dieu, qui n'est pas dans l'univers, entre dans l'univers. Il est au-delà. Donc chercher quelque chose qui n'est pas là au départ, mais qui doit être là pour parvenir au salut. Et c'est quelque chose qui est à chercher. Alors tout de suite, quelqu'un peut dire, mais ça, ce sont les œuvres. Eh bien, d'une certaine manière, oui. Oui. Mais les œuvres de qui? Les œuvres de qui? Est-ce que l'être humain cherche par nature, par lui-même, est-ce qu'il cherche les choses de Dieu? Et la réponse est claire. Non, non, absolument pas. Non seulement ils ne les cherchent pas, mais ils cherchent à les éviter. Cherche à les éviter. Donc effectivement, c'est une œuvre, et peut-être ça nous touche moins ici en Europe, mais bon, je reviens de ces 2 semaines en Afrique, et là-bas, c'est continuellement, si nous commençons à prêcher quelque chose comme ça, chercher, automatiquement, il y a tout un paquet de gens qui prétendent être dans la grâce, qui vont dire, mais ça, ce sont les œuvres. Eh bien oui, ce sont les œuvres. Alors, quand j'avais vu, il y a deux, trois qui étaient assez interloqués quand j'ai dit ça, parce que en fait, ça leur enlève toute l'herbe, ça leur coupe l'herbe sous les pieds. Mais oui, ce sont les œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit chez ceux qu'il veut toucher, chercher. Le royaume des cieux se saisit, et pour ceux pour les violents, c'est-à-dire pour ceux qui s'en emparent. Et même si ça détruit notre théologie, ce n'est pas important. La chose importante, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas là, qui vient et qu'il faut chercher. Dieu n'est pas là à simplement pourvoir un petit peu comme un genre de resto du cœur à ceux qui, plus ou moins, bon, de toute façon, il vaut mieux avoir quelque chose de plus, n'est-ce pas? Non, non. Aujourd'hui, le Dieu qu'on présente, c'est un Dieu qui est un Dieu mendiant. La plupart du temps, c'est le Dieu qui est le Dieu, comment on appelle ça? Assistant social. Le Dieu mendiant qui frappe à la porte, faites-lui une fleur quand même, ouvrez votre cœur à ce pauvre Jésus, sinon il va être tellement solitaire et esseulé dans son éternité. C'est terrible. Mais c'est exactement ce qu'on entend. Bon, pas dans ces termes, bien entendu. Mais non, ici, c'est nous, c'est l'être humain qui est le mendiant. S'il ne cherche pas, il ne va pas avoir. Et s'il ne va pas avoir, il va plonger dans la perdition. Donc gardons ces choses bien à l'esprit. Maintenant, on va sauter, et ce sont simplement des réflexions qui peuvent nous alimenter notre méditation. Chercher le royaume et la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je pense qu'on sait, mais la chose importante, c'est de continuer à toujours nous remémorer, redites-moi l'histoire, n'est-ce pas? Et bien entendu, la version anglaise, c'est redites-moi la vieille, vieille histoire, qui n'est jamais vieille en fait. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu ici? Et je crois que si nous allions dans une librairie, peut-être plutôt anglophone, on verrait probablement plusieurs rayons, s'ils étaient bien achalandés, plusieurs rayons de livres et de thèses, de doctorats et ainsi de suite qui ont été écrits pour décrire qu'est-ce que le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a même une différence entre le royaume des cieux, le royaume de Dieu et ainsi de suite? Je me rappelle avoir vu des thèses là-dessus. On va laisser ça pour amuser les théologiens pendant ce temps-là, ils nous laisseront tranquilles. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement là où Dieu règne. Alors, c'est peut-être un peu trop simple, mais gardons la simplicité. C'est là où Dieu règne. Vous me dites, je suis chrétien. Ok. Est-ce que Dieu règne? C'est très pratique, n'est-ce pas? Et en fait, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Est-ce que Dieu règne? Ou est-ce qu'il y a des poches de rébellion? Par exemple, au Congo, où j'étais au mois de juillet. Alors, on peut voyager par la route, mais c'est très dangereux, surtout pour un blanc, parce qu'il y a encore des poches de rébellion. Voilà, le pays est en paix maintenant, mais pas complètement. Il y a des endroits où ils appellent ce qu'ils appellent les ninjas. Et bon, là, vous passez, c'est dangereux. Non. Est-ce que si nous disons nous sommes dans le royaume de Dieu, nous appartions, no, Dieu, Dieu est notre roi, Jésus-Christ est notre Seigneur, est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne sur tout le pays? Est-ce qu'il règne sur toute la vie? C'est important. Alors, on peut dire, oh oui, quand même, il règne, hein, j'essaye de faire. Tout ce qu'il faut et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire et tout ça, ça n'est pas ce dont il est question ici. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est encore là encore très simple. C'est là où ce que dit Dieu est obéi. C'est là où on obéit à ce que Dieu dit. Alors, là encore, est-ce que nous sommes dans le registre du légalisme? Non, pas du tout. Nous sommes dans le registre de la foi. La foi, c'est entendre la vérité. La foi, c'est acquiescer que cette vérité, c'est la vérité. Et c'est pratiquer la vérité, vivre la vérité. Les trois aspects de la foi qu'on résume, qu'on illustre par le fait de s'asseoir sur la chaise. Et tant qu'on n'est pas assis sur la chaise, on ne croit pas vraiment que la chaise peut supporter le poids. Là, c'est la même chose. Je me confie à ce règne de Dieu, c'est-à-dire par la foi. Je saisis toute la réalité de Dieu. Il est roi, il est souverain, il est celui qui règne. Et il ne règne pas là-bas, ou il ne règne pas plus tard, il règne maintenant, dans ma vie, dans mon cœur, si je suis chrétien. Et si ce n'est pas le cas, il ne règne pas, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas sauvé. Donc cherchez ce royaume, cherchez là où Dieu règne. Ah, bien entendu, l'être humain veut bien chercher quelque chose pour éviter l'enfer. Ben là, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de ça. Et cette action, cette injonction de chercher le royaume de Dieu est quelque chose qui met tout être humain au pied du mur. Impossible. Impossible. Parce que l'être humain ne veut pas, par nature, que Dieu règne. C'est pour ça qu'il faut cette œuvre de l'esprit et le fait qu'il cherche, c'est une œuvre de l'esprit. Et Jésus lui-même dit, cherchez et vous trouverez. Pourquoi? Parce que l'esprit accomplit, finit, achève, parachève toujours l'œuvre qu'il commence. Mais aussi, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne du dehors. Bon, déjà, l'œuvre de l'esprit vient du dehors. Mais là encore, il faut quelque chose qui vienne du dehors. Et ici, Jésus ne dit pas simplement cherchez le royaume de Dieu, mais regardez, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Car on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans être recouvert de la justice de Dieu. Et là, on voit tout de suite que le salut, car on parle ici du salut, que le salut n'est pas quelque chose que l'homme peut fabriquer, que l'homme peut tricoter, que l'homme peut simplement, dont l'homme peut simplement se saisir. Ça lui est donné. Et on se rappelle par exemple quand Jésus parle des paraboles, il dit, mais à vous, il a été donné de comprendre, mais aux autres, il n'a pas été donné. Et nous en sommes exactement là. Le royaume de Dieu, oui, mais il faut être couvert de la justice de Dieu dans le royaume de Dieu. Et cette justice, c'est quoi? Cette justice, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On revient toujours, toujours, toujours à cela. Et si jamais ceux à qui nous annonçons l'Évangile nous accusent de toujours redire la même chose, alors nous savons que nous sommes sur le bon chemin. La personne est là, l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout homme devant Dieu est injuste et donc ne peut pas entrer dans ce royaume de justice. Il faut que cet homme, cet être humain, soit revêtu de la justice de Dieu. Est-ce qu'il peut se revêtir de cette justice lui-même? Non, absolument pas. Parce que non seulement il est déchu, mais il est rebelle. Est-ce que nous nous regardons comme des rebelles par nature? Parce que sinon, on sera tenté de penser qu'on peut tricoter la robe de justice. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que Dieu envoie, et c'est l'Évangile, n'est-ce pas? Il faut que Dieu se pourvoie un agneau, comme dit Abraham. Il faut que Dieu envoie un sauveur, quelqu'un qui va en fait accomplir cette justice par une vie parfaite et qui va régler la dette de la justice offensée, de la loi qui a été transgressée par la mort. Qu'il règle cette dette par la mort. La transgression, le péché a un salaire. Ce salaire, c'est la mort. Et nous cherchons cette justice de Dieu. Si nous la cherchons en nous, nous ne la trouverons jamais. Aucune mort ne peut apporter la justice, parce que simplement la mort pour un être humain, c'est normal, dans le sens que c'est la conséquence. Mais là, il faut qu'il y ait cet agneau sans tache qui meurt pour les autres. Et Dieu se pourvoit cet agneau. Donc cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et nous voyons que ainsi, nous sommes là encore mis dans la place de mendiants. Ce sont des choses que Dieu donne. Il nous faut nous approcher de quelqu'un qui est souverain, de quelqu'un qui est aussi rempli de grâce, dont nous avons entendu parler dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons les choses comme ça? Ou est-ce que nous sommes devenus tellement accoutumés à ce message que par la routine que il a perdu son éclat de merveille? Est-ce que l'Évangile a cessé d'être une bonne nouvelle pour nous, mais de devenir simplement quelque chose qui est là? On sait qu'on l'a, ça va aller, c'est bien. À ce moment-là, nous sommes en danger, dans le sens que nous prenons ce que Dieu a fait en Christ pour une chose profane. Prendre le sang de Christ pour une chose commune, profane, je ne me rappelle plus comment était l'expression dans Hébreu, c'est très dangereux, parce que ça, c'est la même chose que d'être anathème, que d'être réprouvé. Et il faut, c'est ainsi que l'auteur de la lettre aux Hébreux essaye de réveiller ses correspondants en leur disant que non, il ne faut pas prendre le sang de Christ pour une chose commune. Donc nous avons cela, chercher le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que nous cherchons? Ou est-ce que nous nous sommes arrêtés à une expérience passée maintenant, peut-être, et puis maintenant tout va bien? Non. C'est quelque chose qui vit, qui dure toute la vie. On cherche le royaume, parce qu'il y a toujours des zones d'ombre que l'esprit éclaire, où la justice de Dieu ne coule pas. Alors, elle coule dans le fait, si nous sommes en Christ, nous sommes en Christ. Mais maintenant, il y a cette croissance dans la grâce, cette vie de Christ, qui n'est pas la vie du monde, la vie naturelle de l'être humain. Non, il faut. Mais il y a une manière de chercher. Et c'est bien entendu l'accentuation sur de ce verset, chercher premièrement. Premièrement. Parce qu'on peut chercher en dilettante, on peut chercher un peu, bon, au cas où, hein, si on fait une collection de quelque chose, si on a quelque chose qu'on aime bien, alors, bon, on garde l'œil ouvert, mais c'est rien de plus. Ici, ça n'est pas cela, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question, c'est le trésor caché dans le champ, c'est la perle de grand prix. On cherche, on est à l'affût. Cherchez premièrement. Premièrement. Et là encore, l'implication qui est tout à fait simple et primaire, on pourrait dire, mais c'est qu'on ne peut pas chercher premièrement deux choses ou plusieurs choses. C'est une contradiction dans les termes, automatiquement. On ne cherche premièrement qu'une seule chose. Est-ce que nous cherchons premièrement ce royaume et cette justice de Dieu? Et il nous faut bien entendu baisser la tête dans la honte, parce que on s'aperçoit, et nous ne sommes pas les seuls, mais ça ne nous exonère pas, mais on s'aperçoit combien il est facile parmi les hommes et combien il est facile parmi ceux qui affirme être croyant, de chercher premièrement toutes sortes d'autres choses. Toutes sortes d'autres choses. Est-ce que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que nous cherchons cela comme s'il n'y avait rien d'autre? Rien d'autre. Si je n'ai pas à manger, ce n'est pas important, pourvu que. C'est à ce point-là. Alors, bien entendu, ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut négliger d'autres choses. Il y a des choses légitimes, mais le fait de chercher premièrement, ça montre le souci qu'on prend, toute la dynamique qu'il y a. Est-ce que nous sommes dans ce cas-là? Ou est-ce que d'autres choses viennent occuper la première place, la place centrale? C'est-à-dire la place qui fait que sans ces choses-là, nous ne pouvons pas être sauvés. Vous voyez? Ça n'est pas une question de bon, ben, je ne vais plus au travail maintenant parce que je vais méditer toute la journée et tout ça. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que, bon, il faut que je travaille, mais ce travail pour moi est un fardeau. Parce que si je n'avais pas besoin de manger, je n'aurais pas besoin de travailler, je pourrais méditer ces choses, je pourrais sonder toute cette. Ce royaume et cette justice de Dieu, et ainsi de suite. Donc vous voyez l'esprit qu'il y a ici qui est complètement différent. Mais Jésus termine ici, ou continue plutôt, non, il termine pas, il continue en disant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et bien entendu, nous voyons le contexte ici. Il est en train de parler de la vie du royaume, l'entrée et la vie du royaume. Dans tout ce sermon sur la montagne, c'est cela. N'est-ce pas? Qui sont les citoyens de ce royaume? Ça, c'est les béatitudes, et ainsi de suite. Quelle est la vie, et ainsi de suite. Par exemple, on voit des instructions sur la prière avant notre passage. Mais ici, Jésus montre quelles sont les choses qui occupent l'esprit, quelles sont les choses qui accaparent l'esprit de l'être humain par nature. Regardez. Ne vous amassez, au verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Eh bien, ça c'est la chose. Jésus est en train de parler à des gens que le fait d'amasser des trésors sur la terre occupe. Et n'est-ce pas quelque chose qui nous touche? Alors vous allez me dire, bon, nous on ne cherche pas vraiment de trésors sur la terre. Oh si, nous cherchons. Nous ne cherchons pas la richesse, mais personne ne cherche la richesse, en fait. Tous ceux qui cherchent la richesse, en fait, ne cherchent pas la richesse, mais la sécurité que procure la richesse, c'est-à-dire un genre de salut dans les richesses. Pourquoi est-ce que le riche veut toujours accumuler plus? Parce qu'il n'est jamais sûr, n'est-ce pas? Il n'est jamais sauvé par la richesse, mais c'est ce qu'il cherche, le salut. Et il va se servir de ces choses. Et chacun d'entre nous, nous sommes là, en fait. On va chercher la chose qui est parfaite, qui nous permet de nous sentir à l'aise dans ce monde. Or, il n'y a jamais rien de sûr, parce que dans ce monde, il y a la teigne et la rouille. Alors aujourd'hui, ce sont peut-être des choses plus sophistiquées que cette teigne et cette rouille, mais ça détruit tout pareil, n'est-ce pas? Il y a des voleurs qui percent et dérobent. Et encore récemment, on a vu que les voleurs ne percent pas les murs, mais ils mentent. Dans les banques, dans tout système bancaire, les grands mensonges que nous avons vus depuis 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Ça nous a fait quoi? Ça dérobe tout. Ça dérobe tout. Et combien de gens sont aujourd'hui au chômage, tout simplement parce que des gens ont menti. Donc, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de cette perfection, où il n'y a pas cette sécurité qui vient par l'amas des trésors, l'amas des choses du monde. Donc, ce n'est pas simplement une question d'avoir un bon compte en banque, mais c'est plutôt la question de chercher le salut autre part qu'en Dieu. Mais il y a aussi une dimension qui nous touche peut-être plus, de plus près. C'est le fait, et ça je le vois souvent parmi les églises, même les églises qui sont dans la vérité, c'est le fait de chercher le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire arriver à une situation dans l'Église qui, en quelque sorte, est parfaite. Et on a fait le ciel sur la terre. On va faire ça à travers le légalisme, on va faire ça à travers le dirigisme, on va faire ça à travers toutes sortes de promesses et de disciplines et encore. Enfin, vous mettez toutes ces choses-là qui essayent de fermer l'Église de telle manière à ce que nous arrivons à une situation d'autarcie. On n'a plus besoin de Dieu parce qu'on est en quelque sorte parfait. On n'ose pas le dire, mais c'est quand même ça. On est sûr maintenant, on est tranquille. Le fléau de l'inondation, du mal peut venir, on est tranquille. Ou comme disaient les Hébreux, les Israélites à l'époque d'Ésaïe, nous avons fait un contrat, une alliance avec la mort. Quand le fleuve, le fléau viendra, il ne nous touchera pas. Mais non, ça c'est impossible. Et il nous faut vraiment, vraiment faire attention. Par exemple, ça peut nous toucher de façon très subtile. On est un petit groupe et on peut avoir peur de toutes les difficultés que d'autres personnes pourraient amener. C'est vraiment très subtil. Ou alors, on peut chercher notre valeur dans la quantité, dans le nombre. Enfin, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Mais ici, Jésus est en train de dire, non, ces choses-là, ce ne sont pas des choses à chercher premièrement. Bien sûr, nous sommes chargés, nous avons un fardeau parce que nous sommes un petit groupe. Pourquoi ? Parce que nous voulons que les gens entendent l'Évangile. Nous voulons que les gens parviennent à la connaissance de cette merveille qui est en Christ, n'est-ce pas ? Mais le nombre lui-même n'a aucune valeur, il n'y a aucune vertu dans la quantité, il n'y a aucune vertu dans la petitesse non plus. Non, ces choses-là ne sont pas à chercher premièrement. Parce que si nous sommes une grande foule et que le royaume n'est pas annoncé, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas ? C'est cela. Donc Jésus ici montre, ces choses-là vous seront données par-dessus si vous cherchez plutôt, pardon, premièrement ce royaume et cette justice de Dieu. Ce fait que cette sécurité que vous cherchez dans le monde et que vous ne trouverez jamais est donnée dans le royaume de Dieu, dans la justice de Dieu. En Christ, nous avons cette sécurité. Mais si nous la cherchons dans le monde, bien entendu, nous ne pouvons pas la chercher premièrement en Christ, dans celui que Dieu a envoyé. Et c'est ainsi que Jésus peut dire à ceux qui l'écoutaient, voyez toutes ces choses-là qui sont dans le monde, qui semblent promettre de nous amener la sécurité, ce ne sont pas des choses qu'il faut chercher. Vous cherchez le vêtement, il dit, mais regardez, même la nature devant vous vous enseigne que ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher premièrement. Dieu donne ces choses. Regardez, considérez, pourquoi vous inquiétez, au verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Pourquoi ? On peut dire, oh mais attends, de quoi est-ce qu'on va vêtu ? Alors, on va être vêtu. Alors ici, pour le moment, avec le froid, ça c'est quelque chose d'important. Mais regardez, considérez comment croissent les lys des champs. Alors, n'importe quelle fleur, quand on la regarde, elle est belle, tout ça. Elle vient là, elle est belle, elle part. Qui est-ce qui lui a donné ça ? C'est Dieu. Et on sait que la richesse de Salomon était énorme. Mais pour nous, elle nous fait un peu rire aujourd'hui, franchement. Il avait tous ses chariots, ses chars, comme disait Nathan tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il avait toutes ses écuries spéciales, les écuries du roi Salomon que tout le monde recherche, enfin pas tout le monde, mais que les savants recherchent actuellement. Ça nous fait un peu rire, n'est-ce pas ? Mais quand on regarde la beauté d'une, ne serait-ce que d'une fleur, et là, Jésus n'est pas en train de parler des grands lys qu'on a chez les fleuristes, il parle simplement d'une fleur des champs. On regarde et on peut la mettre sous le microscope, on va voir des merveilles que Dieu a données. Pourquoi ? Pour au plus quelques jours, et puis ça meurt et c'est brûlé au four. Mais Salomon n'avait même pas la gloire que cette fleur a. Si Dieu donne, regardez, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas, ne vous verra-t-il pas à plus forte raison, gens de quoi ? Gens de peu de foi. Gens qui ne recherchaient pas, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, comme nous avons vu. Vous voyez, le fait que vous recherchez ces choses-là, en fait, vous dérobe toute la gloire du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, et en plus, ces choses-là ne vous viennent pas. Parce que le monde est pauvre, n'est-ce pas ? Il y a aussi de... Ne vous inquiétez pas, regardez verset 31. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous ? Ah bien sûr, on va dire, mais il nous faut manger, il nous faut boire. Oui, bien entendu. Bien entendu. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est quelque chose qu'il faut attendre du Seigneur. Si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus met ce qu'on pourrait dire un genre de priorité dans ces choses-là? Ce n'est même pas une priorité. C'est le fait qu'il faut chercher les choses importantes en sachant que parce que Dieu est ce Dieu-là, il donnera ces autres choses. Pourquoi? Parce que, en fait, regardez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Ça n'est pas digne de ceux qui veulent vivre la vie de Dieu. Et combien de fois nous revenons dans ces choses-là? Et nous ne voyons plus Jésus-Christ, celui qui est donné la justice même de Dieu. Et vient aussi toute cette incrédulité, ces doutes et toutes ces choses au sujet de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Mais là où Dieu règne implique qu'on écoute ce que Dieu dit, qu'on voit que c'est vrai et qu'on obéisse. Ah, là c'est dur. Et la justice de Dieu, là où Dieu règne et où Dieu a apporté ce qui était nécessaire pour la réconciliation. La réconciliation. C'est pour cela qu'il nous faut aller à Christ lui-même, parce que Christ lui-même est le sacrifice, là où Dieu, en fait, se satisfait lui-même avec celui qui l'a poursuivi. Comme on dit souvent, l'évangile se résume en deux mots, substitution, satisfaction. Dieu a pourvu quelqu'un d'autre, parce qu'aucun être humain ne peut fournir ce qui est nécessaire. Et ayant fourni la personne qui a accompli l'œuvre donnée, Dieu est satisfait. Dieu ne se satisfait pas dans toutes ces choses du monde, dans le fait que le riche peut vivre une certaine vie qui lui permet de voir venir, comme il dit. Mais il n'y a aucune satisfaction. On le dit nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme riche soit satisfait? Toujours plus. N'est-ce pas? Et puis, surtout, on regarde cette leçon de la nature, les fleurs des champs, les oiseaux. Les oiseaux sont là, à droite, à gauche. Pendant l'hiver, on peut être tenté de leur mettre un peu de nourriture, tout ça. Mais Dieu pourvoit. Et ça me fait penser à l'histoire, c'était une chrétienne. Alors, est-ce que c'est véritable ou pas? Je pense que c'est suffisamment véritable dans nombreuses fois pour qu'on puisse le dire. Voilà la chrétienne qui priait toujours le Seigneur pour qu'il supplée à ses besoins. Et comme à cette époque, c'était dans le passé, on priait à haute voix. Le voisin qui était un impie, agnostique, impie, athée, je ne sais pas, confirmé. Et le monsieur entendait ses prières. Alors il a décidé de jouer une farce, quoi, de lui faire un coup. Alors il a mis tout un paquet de provisions sur le pas de la porte. Et voilà la dame qui prie et elle va pour sortir et elle trouve toutes ses provisions sur le pas de la porte. Alors elle loue le Seigneur. Et le monsieur vient et dit, mais ça c'est complètement ridicule. Vous louez le Seigneur, c'est moi qui ai mis la chose comme ça. Il dit non, 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 c'est le Seigneur qui a envoyé ça. Même si le commis qui l'a amené, c'était le diable, c'est lui qui l'a envoyé. C'est ça, n'est-ce pas? Et les oiseaux, le Seigneur donne. Ne va-t-il pas donner à ceux qui le cherchent? Bien entendu, la réponse, c'est que il le fait. Il le fait. Et c'est à nous d'avoir cette foi en Dieu. Cette foi, la foi du royaume. L'obéissance à ce que Dieu dit, c'est-à-dire chercher premièrement mon règne, chercher premièrement là où je règne et la justice que Dieu a donnée. Et toutes ces choses seront données. Alors, une dernière pensée. Quelles sont toutes ces choses? Alors, j'ai parlé de le fait de la sécurité et tout, et tout, et tout, et tout. Mais aujourd'hui, on pense que vraiment, si je crois au Seigneur, il y a tellement d'inculture dans le monde évangélique, et peut-être ça nous touche, je ne sais pas, mais toutes ces choses, maintenant, il faut que le Seigneur, maintenant je crois en lui, il doit m'envoyer les bénédictions. Là, on voit des bénédictions, ça c'est très certain. Mais toutes choses, quelles sont toutes ces choses-là? Alors, est-ce que le Seigneur, par exemple, va m'envoyer la maladie, va m'envoyer le deuil, va m'envoyer ces choses qui sont très, très douloureuses? Eh bien oui. Eh bien oui. Parce que, par exemple, le Seigneur voit que je commence à penser que je suis immortel. Bien entendu, si on me dit, je vais dire, non, 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 je ne suis pas immortel. Mais je vis comme si je le suis. Je vis comme si je vais durer sans arrêt. Et voilà qu'il va envoyer la maladie pour me montrer que finalement, je ne suis pas immortel. Et donc, je peux vivre comme quelqu'un qui se prépare pour le royaume de Dieu. Vous voyez, en fait, il m'enrichit. Il va m'envoyer le deuil. Parce que peut-être que je me repose dans une relation humaine, trop, et je trouve ma sécurité dans cette chose, mon trésor. Mais Dieu va envoyer le deuil. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que, en fait, c'est la vie du royaume que Dieu vise. Et nous pouvons nous réjouir, en fait, même dans les choses qui sont difficiles. Ça n'enlève pas la difficulté. Ça n'enlève pas la difficulté. Et par exemple, bon, je pense que vous savez que pendant que j'étais au Togo, là, j'ai pu passer un peu de temps auprès de cette jeune fille, cette jeune femme, là. Et la tentation, on sait qu'elle n'en a que pour quelques semaines, et là c'était quelques jours, n'est-ce pas? La tentation, c'est de lui procurer, et vous comprendrez ce que je veux dire, de la chaleur humaine, de l'amitié humaine. Nous t'aimons beaucoup. Qu'est-ce que ça va lui faire pour passer le Jourdain? Rien du tout, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a donné de lui dire, nous t'aimons beaucoup dans le Seigneur, mais ça, c'est rien du tout. Il y en a un qui t'aime, si tu es en lui. Et c'est lui qui va t'accompagner à travers la rivière, n'est-ce pas? Et c'était une merveille de pouvoir voir, de pouvoir lui pointer Jésus-Christ et de voir ses yeux qui brillaient. Parce qu'effectivement, quelques jours plus tard, qui est-ce qui va l'aider à traverser? Qui est-ce qui va l'attendre de l'autre côté? Pas notre amitié c'est fini. Hein? C'est fini. Et si cette personne est au Seigneur, maintenant, cette personne ne pense pas à notre amitié, à qui que ce soit. Elle est combien ravie, n'est-ce pas? Et je ne sais pas comment on pourrait traduire en français moderne, mais hein, le mot ancien, c'était ravi, c'était pratiquement. Oui, ça donnait l'idée du viol. Hein. Mais elle est, comment, emportée par l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? C'est exactement toutes ces choses qui nous sont données. Des fois, la porte est difficile, mais de l'autre côté, il y a, oui, ce royaume parfait et cette justice de Dieu. Est-ce que nous sommes à chercher premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ou est-ce que des tas de choses sont en chemin, des tas de choses sont là, des tas de pierres jonchent le chemin et il nous faut escalader, il nous faut. Ah oui, parce qu'il nous faut la sécurité, il nous faut avoir une vie quand même qui est selon ce que nous pensons. Non, 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 non. En fait, nous sommes du mauvais côté de la tapisserie, n'est-ce pas? On voit tous les. Toutes les bouts effilochés. Mais nous allons passer un jour. Cherchons premièrement cette image que Dieu est en train de créer en nous, parmi nous et dans le monde. Et réjouissons-nous qu'il y a un royaume à chercher premièrement, qu'il y a une justice de Dieu qui existe et qu'il nous faut chercher premièrement, continuellement, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui cherche. Puisse le Seigneur, la parole de Dieu, agir en nous de telle manière à nous toucher et à nous faire voir ces choses par la foi, cette foi du royaume. Amen.